Vous êtes avec SBS French.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, dernière partie de notre épisode consacré à l'affaire dite des Family Court Bombings. Au cours des deux précédents, on vous a expliqué qu'il y a eu des gens qui ont été assassinés par balles à bout portant, qu'il y a d'autres qui sont morts au cours d'explosions, qu'une bombe a même visé un tribunal, le tribunal de Parramatta. Aujourd'hui, vous vous en doutez, on va vous expliquer enfin comment cette affaire a été terminée, qu'est-ce qui a permis à la police d'appréhender et de faire condamner l'auteur de ces attaques. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Pour revenir à l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, on a donc un suspect assez bien identifié mais contre lequel on n'a pas suffisamment de preuves. Les crimes commis ne sont donc pas élucidés et en attendant, il y a un véritable vent de panique en Australie, en particulier dans le monde judiciaire. Et j'ai vu que pendant des années, les juges, en particulier les juges aux affaires familiales, ont été sous la protection de gardes du corps. C'est fou, moi j'avais entendu parler de ça que pour les juges italiens qui s'occupaient des affaires de mafia.
Oui, c'est absolument vrai, dans la mesure où, voilà, quand vous attaquez à des cartels ou des mafias, enfin, il y a eu des assassinats en France, hein, comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. Mais en réalité, un des plus grands degrés de violence au sein de la société, malheureusement, tristement, il s'exerce souvent au sein des familles, parce que c'est dans ces cours que votre vie va se jouer. On va vous octroyer la garde ou non de vos enfants, la chair de votre chair. On va peut-être diviser vos biens. Enfin bref, des choses qui affectent les citoyens ordinaires de la façon la plus directe. Et donc, effectivement, comme dans toute société, vous allez avoir des personnes qui vont réagir de façon différente et qui peuvent être violentes et prendre les juges des affaires familiales à partie. Alors, quand Monsieur Oppas est assassiné, branle-bas de combat, effectivement, il va falloir protéger nos juges. Et il y a un journaliste à l'époque qui fait une émission et en fait, il se pointe tout simplement au tribunal et puis il rentre, disons, comme dans un moulin. Il prend l'ascenseur, voilà, il arrive directement à côtoyer des juges. Et donc, avec sa caméra, il dit, est-ce que vous trouvez ça normal que si peu de temps après l'assassinat du juge Lopas, je puisse rentrer comme ça, comme dans un moulin, alors même que la police a dit, a assuré qu'il y aurait des renforts, je peux vous prouver aujourd'hui, et il le montre effectivement avec son documentaire, qu'il ne se passe rien. Et donc, ça a mis un petit coup de pression à la police de Nouvelle-Galles du Sud, qui a dû effectivement assurer la protection d'un certain nombre de juges des affaires familiales pendant un moment, parce que l'assassinat, le premier, a lieu en 80, la tentative d'assassinat sur le remplaçant de Monsieur Oppas, Monsieur G, a lieu en 84, l'explosion du tribunal de Parramatta des affaires familiales a lieu en 84, donc ça dure un certain moment, puisque en plus le suspect court toujours. Donc, les juges, en tant que profession organisée, peuvent dire, écoutez, nous avons suffisamment de preuves pour montrer que notre vie est potentiellement en danger, nous souhaitons une protection policière. C'est effectivement remarquable que oui, il ne s'agit pas d'affaires de mafieux ou de gens qui ont accès à des armes pour tuer. Non, non, il s'agit d'Australiens ordinaires.
Alors, au final, cette affaire, elle a été résolue plus de 30 ans après. Donc, vous l'avez dit plus tôt, hein, l'homme en question s'appelle Leonard Warrick. Est-ce qu'on sait finalement, puisque pendant toutes ces années il était très fortement suspecté, mais les policiers manquaient de preuves pour l'inculper, comment est-ce qu'il a finalement été démasqué? Et on commence à en avoir une idée assez claire, mais est-ce qu'on sait pourquoi il a commis ces meurtres? Est-ce qu'on est sûr de la raison pour laquelle il l'a fait?
Alors, là, ça va être très très compliqué, Grégory, parce que Monsieur Warrick a toujours nié être l'auteur de ces crimes. Il a toujours dit qu'il était innocent. Et donc, c'est très, très compliqué. Alors, comment cette affaire s'est résolue? Parce que là, on parle du début des années 80, quand même. Bon, Il se trouve qu'on a mentionné l'assassinat de son beau-frère, hein, le monsieur avec la balle dans la tête dans l'eau et le béton, l'assassinat de monsieur du juge Oppas, puis après la tentative d'assassinat du juge J par explosion, le meurtre de la femme de ce juge par explosion et par explosion également le tribunal de Parramatta. Il y a une explosion qu'on n'a pas mentionnée. C'est celle de la salle des témoins de Jéhovah de la banlieue de Casula à Sydney, où il y a eu une explosion en 1985 qui a tué un fidèle, un monsieur Graham Wicks, et qui en a blessé plusieurs autres. Le lien, là, c'est que Madame Blanchard, donc l'ex-femme de monsieur Warwick, s'était un peu réfugié dans cette communauté et avait à plusieurs reprises demandé de l'aide du pasteur vis-à-vis de son mari. Donc, vous avez encore un ennemi potentiel de Monsieur Warwick. Et donc, si effectivement c'est lui, il semble cohérent que, comme il s'est pris à partie contre plusieurs de ses ennemis par des moyens illégaux, armes à feu ou explosifs, pourquoi pas faire sauter hein, la salle, enfin l'église en l'occurrence, des témoins de Jéhovah. Quand ça se passe, encore une fois, il passe à travers les mailles du filet parce que aucune preuve. Il se trouve qu'en 2012, de mémoire, l'unité des cold cases du State Crime Command de Nouvelle-Galles du Sud réexamine un certain nombre de dossiers, de preuves, avec des techniques modernes. Et il se trouve, un peu par coïncidence, qu'une des pièces à conviction qui avait été gardée dans la dernière explosion de 85, celle du lieu de culte, il se trouve qu'un bout de moquette contient des traces d'ADN de monsieur Warwick. Et ces traces d'ADN lui ont été présentées parce qu'en fait, la police a demandé à sa fille son ADN, qui était très proche de celui qui a été retrouvé sur la moquette et qui correspond en fait à celui de monsieur Warwick. Donc là, vous avez une preuve tangible. Attendez, comment vous êtes retrouvé dans ce lieu de culte alors que vous n'êtes pas pratiquant et à ce moment-là, ça commence à faire beaucoup. Et donc, monsieur Warwick est interpellé par la police de Nouvelle-Galles du Sud, qui effectivement se dit, bon, bah, tant qu'à l'inculper, on va l'inculper pour tout ce qu'on pense être lié à lui, le meurtre de son beau-frère, l'assassinat du juge Oppas, les trois explosions, plus la quatrième, et on va l'incarcérer le temps du procès. Ce procès a effectivement eu lieu. Il est arrêté en 2015, hein, quand même, hein. La dernière explosion a eu lieu en 85, 30 ans plus tard. Et en fait, en 2020, le 23 juillet exactement, il est déclaré coupable de trois meurtres, hein, celui d'Oppas et de Graham Wicks, donc la pauvre personne qui est décédée dans son lieu de culte, et de Pearl Watson, la femme du juge. Donc trois assassinats, les explosions également, mais il est acquitté de la mort de son beau-frère, enfin de l'assassinat de son beau-frère, apparemment pas suffisamment de preuves. Donc il est condamné à trois peines de prison à perpétuité, incompressibles, et donc il est décédé en 2025, récemment en février, à l'âge de 78 ans en prison. Lui a toujours dit qu'il était innocent. Et effectivement, je suis personne pour me faire une opinion sur l'enquête. J'ai pas vu les preuves à charge, j'ai pas lu tous les débats, mais on peut pas s'empêcher de dire, mais il y a un tel faisceau d'indices qui relie cet homme aux actes qu'il a commis, enfin qu'il aurait commis, et à ses morts, ça ne peut pas ne pas être lui. Mais en même temps, les preuves qui ont résulté à sa condamnation sont quand même assez minces.
Alors, ça, comme vous l'avez dit, il est décédé depuis le mois de février. Il a, comme on dit, emporté ses secrets avec lui, même si pour la justice, les secrets ont été levés. Quoi qu'il en soit, cette affaire, on parle quand même d'assassinat ciblé, d'attentat à la bombe. Est-ce que c'est pas la plus grave attaque terroriste qui ait jamais connu l'Australie?
Oula, alors, vous me posez une vraie question piège. C'est vrai que le terrorisme correspond à une définition assez précise de mémoire, c'est-à-dire l'utilisation de la violence et de la force pour des raisons politiques, religieuses ou doctrinales. Et a priori, oui, vous avez des cas de violence bien plus graves. On pourrait parler de la colonisation, par exemple. On pourrait parler du massacre de Port-Arthur, qu'on a couvert ensemble également. Vous avez des dizaines de personnes qui sont abattues. Il n'y avait pas de raison politique. Donc, je trouve que le terrorisme est une raison, est une motivation politique, si vous voulez. Là, en l'occurrence, je ne sais pas si ça correspond à cette définition, parce qu'effectivement, on pouvait me dire, oui, mais attendez, c'est quand même des juges qui sont pris à partie. Moi, je pense plutôt qu'il s'agit d'une vendetta personnelle, d'un homme complètement fou et violent, qui voulait juste se débarrasser de toute personne qui était son obstacle, pour voir sa fille, qui pouvait potentiellement prendre ses biens immobiliers, etc. C'est pas quelqu'un qui s'est mis un masque sur la figure en relâchant des vidéos de temps à autre en disant je suis pour l'abolition des cours de justice familiale. Donc, effectivement, ce sont des assassinats, ce sont des explosions qui, pour moi, ont plutôt une nature personnelle et de vengeance qu'une dimension politique. Parce que si Monsieur Warwick avait voulu effectivement mener ce combat, il aurait pu rejoindre des associations de pairs totalement légales, totalement non violentes. Or, c'est pas le chemin qu'il a choisi pour ses revendications. Là, en revanche, où vous avez raison, c'est sur le fait que ce sont des affaires qui ont profondément choqué les Australiens, parce que c'est pas un peuple qui est habitué à aller poser des bombes en cas de problème.
Ok, ben merci beaucoup en tout cas Romain pour nous avoir emmené le long de cette histoire assez incroyable quand même. Et à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'Histoire cachée d'Australie. Merci beaucoup Romain.
Merci beaucoup, Grégory. Au revoir.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.